Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de retrouver Pierre Baucher de l'Institut qui vient de faire paraître un nouvel ouvrage, Le transport international de marchandises, air, mer, terre, chez Economica. Pierre Baucher, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler de votre nouvelle parution. Alors, vous êtes académicien, bien entendu, auteur et chroniqueur à succès, un grand expert du transport maritime, notamment, mais aussi de la régulation et de la mondialisation. Et vous êtes agrégé de l'université, directeur scientifique au CNRS. Et on peut dire que votre nouvelle parution vient éclairer l'actualité des conflits portuaires nationaux qui voient notamment le port de Marseille bloqué et peut-être ruiné par des actions de syndicalistes et de dockers. Alors il s'agit d'un éclairage, mais aussi, et j'irai plus encore, d'une réflexion de fond sur le transport international de marchandises et sur son évolution, bien entendu. Ce domaine est impacté, en effet, vous le dites, je vous cite, par l'accélération des changements technologiques, la grande rupture du XXIe siècle, vous le qualifiez ainsi, la politique internationale du transport de marchandises, comme hier la politique maritime initiée par Colbert, conditionne largement l'échange international, ses courants et ses flux, l'extension du rayon d'action des moyens de transport, leur rapidité et leur potentialité ont entraîné une mutation en profondeur des entreprises de transport international et multiplient l'échange sous l'effet notamment du progrès technologique, entre autres. C'est aussi la géographie même des transports, trafic et réseaux qui est profondément changée. Les transports terrestres se sont internationalisés. Le trafic maritime est entraîné par l'Asie et le trafic aérien a ouvert de nouveaux monopoles avec le fret. Ces évolutions rapides et structurantes appellent à la vigilance et à une forme de contrôle. Ainsi se pose, bien entendu, et c'est ma première question, la question de la régulation mondialisée et harmonisée des transports. En quoi cette régulation est-elle indispensable, selon vous, Pierre Baucher?
Vous avez parfaitement situé le problème. J'ai l'impression de n'avoir plus grand-chose à dire, sauf à l'illustrer.
Non. Mais c'est une petite synthèse. D'accord.
Bien.
Alors, en quoi donc cette harmonisation des régulations nationales des transports est, selon vous, indispensable?
Elle est indispensable parce que vous l'avez souligné, nous avons maintenant une révolution technologique profonde qui permet et qui oblige le transport national à devenir international dans tous les modes de transport. Que l'on prenne les transports jusqu'à leur intérieur, terrestre, que l'on prenne les transports qui ont toujours été internationaux, qui sont les transports maritimes, où nous avons partout une extension de la desserte effectuée par chacun de ces modes, et naturellement pour le transport aérien, surtout avec l'apparition de la 380.
Bien sûr.
Et nous avons donc là, du même coup, la nécessité de réguler ces transports, non pas seulement dans un espace national, mais dans un espace devenu international.
Alors justement, cette harmonisation, elle touche notamment des transports terrestres aussi au domaine européen. Elle se pose à l'échelon européen.
C'est tout à fait exact. Ceci est très frappant, notamment en ce qui concerne le transport ferroviaire et aussi en ce qui concerne les transports fluviaux. Tout ce qui est transport terrestre, si vous voulez, transport fluvial, transport aérien aussi, qui jusqu'alors était essentiellement un transport de national, n'est-ce pas, tend à devenir en même temps un transport international.
Alors c'est le cas par exemple pour la SNCF que...
Oui, alors pour les transports terrestres, le cas type, c'est effectivement le transport ferroviaire, oui, qui était jusqu'alors et qui reste toujours très largement un transport national. Or, au niveau européen, la politique de la Commission économique européenne est précisément de créer les conditions d'un transport qui s'internationalise, et quel que soit le mode, on peut en montrer des exemples multiples, mais toute la régulation de la communauté économique européenne a rendu et a tendu à rendre compatible, si vous voulez, des organisations qui étaient nationales et qui, devenant internationales, doivent être coordonnées. La régulation est coordonnée maintenant très largement par la communauté économique européenne, laquelle communauté européenne édicte des règlements qui sont devenus quasi obligatoires dans beaucoup de pays. Nos auditeurs en auront un exemple cruel en ce qui concerne le bâtiment, puisque nous sommes tous obligés de payer très cher pour pouvoir rester dans nos lieux si nous voulons respecter les réglementations européennes qui vont progressivement s'imposer. Nous avons la même situation dans le transport ferroviaire. Nous ne pourrons plus, dans le transport ferroviaire de marchandises, continuer à avoir des régulations nationales.
Quittons peut-être l'aspect ferroviaire pour en venir, on va dire, dans la grande actualité, qui est donc celle des transports maritimes et leur originalité. Et bien entendu, les risques qui sont liés à cette originalité, au plan économique, comme au plan de la sécurité des personnes. Alors, quelle est cette originalité des transports maritimes? Vous êtes un grand spécialiste de ce domaine.
Je m'en tiendrai au transport de marchandises, parce que c'est un problème qui est actuellement très brûlant. Bien sûr, l'actualité s'est portée sur le problème portuaire. Il se trouve que dans tous les pays au monde, et ce n'est pas propre à la France, mais en Europe, nous avons malheureusement une caractéristique, c'est que nous avons des grèves périodiques dans les ports français. Ce sont les syndicats, disons, de personnel au sol qui périodiquement se mettent en grève pour des revendications, on peut toujours en trouver des revendications, et qui ont pratiquement bloqué le développement des ports français depuis maintenant un demi-siècle. Et de période en période, le chargeur n'est plus assuré, en passant par les ports français, d'avoir des conditions de livrement qui lui permettent une concurrence valable avec les autres ports et surtout avec les ports étrangers. Or, c'est là un vrai drame pour notamment les ports de la Méditerranée, où nous avons des concurrents extrêmement vigoureux, soit du côté de l'Italie, soit du côté de l'Espagne. Si bien que, en ce qui concerne également les ports atlantiques, il est tout à fait exact qu'actuellement même nos meilleurs ports atlantiques, et je cite le Havre par exemple, sont actuellement en diminution d'activité ou tout au moins en stagnation par suite de la concurrence, si nous prenons les ports atlantiques, notamment de la Hollande. Je conseille aux auditeurs de se procurer un petit film qui est diffusé par le port de Rotterdam. J'ai moi-même été administrateur de port à la fois des ports du Nord, de Dunkerque et du Havre, il y a 20 ans, puisque j'étais à l'époque président, c'est-à-dire vice-président en réalité du Conseil supérieur de la marine marchande, et il se trouve que je prétendais connaître les ports. En ayant vu récemment cette vidéo, je dois dire que je n'ai pas reconnu ce qu'étaient les ports. C'est une révolution considérable. C'est colossal.
D'accord. Et sur quel plan particulièrement ?
Eh bien, la révolution se manifeste d'abord dans l'automatisation absolue des trafics, d'une part, et leur efficacité. Il n'y a plus d'hommes sur les ports. Il y a de plus en plus des mécaniciens, disons. Et d'autre part, sur l'interconnexion des modes de transport en arrière. Ce qui est très frappant, c'est que le port, c'est devenu à la fois une centrale de chemin de fer, un point de croisement des canaux et de la route. Le port est constitué en fait une espèce d'immense plateforme, je parle de Rotterdam, qui relie les différents modes de transport. C'est très impressionnant.
Votre description nous appelle à voir cette vidéo, mais je crois qu'à travers ce que vous venez de dire, on voit déjà cette révolution, si vous l'appelez ainsi. Mais alors, justement, si tout est automatisé, mécanisé, alors pourquoi les dockers sont aussi virulents ?
Eh bien, il reste quand même des hommes, ne serait-ce que des grutiers. Et ce sont les grutiers qui sont aujourd'hui au centre des difficultés, puisque la réforme des ports tend à faire passer au secteur privé tout le domaine des grutiers, notamment. Et il est bien évident que le secteur privé aura un comportement différent de celui qui a été imposé par les syndicats au secteur public qui jusqu'alors les gérait.
Donc c'est une question de survie pour eux, alors ?
Oh non, pas de survie, parce qu'il y a des conditions de travail qui ne sont plus les mêmes.
Tout à fait. Le problème de la pénibilité, notamment.
Il n'y a pas que la pénibilité. Je conseille à nos auditeurs de relire ce que disent certains journaux qui sont très discrets sur le rapport de la Cour des comptes. Nous venons d'avoir un rapport de la Cour des comptes remarquable, comme tous les rapports de la Cour des comptes qui sont un modèle international. La Cour des comptes vient de faire un rapport sur justement la situation du personnel des ports. Et il l'a fait, ce rapport qui a été repris, je lis deux journaux, La Croix et Le Monde, je ne m'en cache pas. Le Monde y a fait un tout petit entrefilet de 6 lignes. Et La Croix a rapporté très largement le rapport public de la Cour des comptes. Ce rapport est sanglant. C'est 12 heures de travail actuellement par semaine, des conditions de rémunération et de primes considérables.
3 à 4 000 euros, je crois, avoir fait par mois.
Si vous lisez le rapport, même simplement le rapport de La Croix, mais tâchez de vous procurer le rapport de la Cour des comptes, sinon dans son intégralité, tout au moins en résumé. C'est absolument, il est bien évident que nous ne sommes absolument plus concurrentiels internationalement et que nos ports atlantiques sont condamnés à mourir les uns après les autres dans de telles conditions d'emploi du personnel, notamment des grutiers.
Oui, donc c'est quasiment un appel au secours que vous êtes en train de lancer parce qu'on va se réveiller sans compétition, sans compétitivité.
Sans possibilité de passer par nos ports dans des conditions concurrentielles.
Et vous dites d'ailleurs à la page 67 de votre ouvrage que nos ports n'assure plus maintenant que 50% des entrées en France des trafics de marchandises.
Tout à fait.
C'est donc on mesure le déficit.
Ceci est d'autant plus grave que les pouvoirs publics au niveau portuaire se sont enfin inquiétés, puisque comme vous l'avez souligné, depuis Colbert, finalement, tout le monde dort un peu dans ce domaine, n'est-ce pas ?
Absolument.
Et actuellement, les pouvoirs publics ont quand même mis de grosses masses d'argent sur les ports, que ce soit les ports atlantiques ou les ports de la Méditerranée. Et pratiquement, nous devons constater que le trafic de nos ports stagne ou diminue, en tous les cas recule massivement vis-à-vis de la montée des ports, grands ports internationaux comme Rotterdam au nord et même Amsterdam, et d'autre part des ports du Midi. Nous sommes devenus, sur le plan atlantique, le meilleur port et passé au 5e rang. Sur le plan atlantique.
C'est absolument colossal. Donc cette déchéance est aussi à mettre en perspective avec un élément que vous soulignez dans votre ouvrage, qui est que la chaîne de transport s'est progressivement délocalisée vers l'Asie.
Oui.
Donc se pose aussi cette question.
Alors toute la chaîne de transport, effectivement, c'est-à-dire depuis la construction navale jusqu'à la coordination avec les autres modes, toute cette chaîne de transport, qui n'a jamais été très brillante chez nous, il faut bien le dire, est en train d'apparaître obsolète vis-à-vis de ce qui se passe à l'étranger. Je dois dire que chacun des modes de transport a une part de responsabilité. Le chemin de fer a toujours eu une réticence, au fond. Il a considéré le canal comme un concurrent auquel il était hostile. Et oui. Depuis Freycinet, il ne s'est jamais engagé au niveau d'un transport de marchandises lié. Et le transport de la SNCF en marchandises n'est pas un des modèles à présenter, n'est-ce pas ? Les difficultés actuelles. Je pourrais citer des incidents que m'ont rapporté des directeurs de la SNCF qui illustrent exactement la difficulté de retrouver les locomotives, on en parlait encore ces temps-ci. La difficulté aussi, je dois dire, on a construit notamment sur le nord des ponts qui ne laissent pas passer, du point de vue des canaux, des conteneurs gerbés. C'est-à-dire que c'est condamner le transport fluvial à une inefficacité dans la mesure où vous ne pouvez pas gerber deux étages parce qu'il ne passe pas les ponts que l'on a construits depuis, notamment pour les trafics à haute vitesse dans le Nord. Autrement dit, c'est absurde. C'est totalement absurde.
Ouais.
Mais ceci, malgré théoriquement une politique de coordination des transports qui devrait être assurée par les autorités publiques, par définition, qui l'ont la main sur deux. Le problème, je le répète, n'est pas seulement un problème national, c'est aussi un problème international. Nous avons une coordination des transports internationale à assurer dans tous les domaines et notamment dans le transport maritime.
Alors la chaîne aérienne aussi occidentale est elle-même menacée par celle de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Et là, on sait qu'il y a des emplois en nombre et durables qui sont en jeu. Alors, comment se fait-il qu'il y a aussi dans ce domaine, alors que nous avions les pays occidentaux autant d'avance, que nous fassions rattraper, et je ne parle pas encore particulièrement de la Chine, mais bon.
Oui, alors là je suis un peu moins inquiet, parce que Il se trouve que nous avons une industrie aéronautique très forte. Nous avons de bonnes alliances avec les entreprises américaines. Et jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas reculé loin de là dans la construction aéronautique. Vous savez que là, je suis moins spécialisé, mais nous avons quand même une construction aéronautique qui tient tête à Boeing, n'est-ce pas, en fait.
Oui, tout à fait.
Quelles que soient les difficultés de change qui pèsent terriblement sur la construction aéronautique française. Mais il n'y a pas plus que la liaison, pour ne pas dire la fusion dans AETS des industries françaises et allemandes, a été un phénomène extrêmement positif qui, au niveau de la construction aéronautique, nous permet de
challenger carrément
les autres industries. D'autre part, la menace de la Chine, je la crois, ce n'est pas une illusion. Mais quand on dit les Chinois ont construit tant d'appareils, etc., pour le moment, les parties délicates, c'est quand même l'Europe qui continue à les faire, notamment les moteurs.
Donc tout ce qui est haute technologie est encore maîtrisé parfaitement par la chaîne occidentale.
Largement maîtrisé. Et d'ici que les Chinois nous aient rattrapés au niveau de la, je dirais, de l'ingénierie fine, qui est essentielle dans le domaine aérien, je pense qu'on a encore devoir de l'eau couler sous les ponts, si je peux dire.
Bon, écoutez, c'est le souhait qu'on peut faire en ce début d'année.
Oui, mais il ne faudrait pas faire de la déprime dans ce domaine. Dans le domaine maritime, c'est beaucoup plus grave, parce que dans le domaine maritime, nous allons notamment vers des navires d'une capacité grandissante, des bassins de construction. Nous tenons dans le transport de personnes, c'est-à-dire des paquebots. Nous avons au Havre quelques atouts, au Havre principalement, mais ailleurs aussi. Mais il ne reste pas moins que les Chinois ont eux-mêmes, et toute l'Asie, les Japonais, les Chinois, les Coréens, ont des chantiers immenses, parfaitement adaptés à la construction de bâtiments énormes, vers lesquels tend la construction navale mondiale.
Alors, vous faites un plaidoyer décisif pour la régulation internationale, compte tenu des effets que vous venez de décrire. Je vous lis d'ailleurs dans votre conclusion, page 100, « Les économies d'échelle et d'envergure dues au progrès technique conduisent fatalement à une concentration des structures de production. Elles ébranlent le cadre juridique défini principalement par les États. Jadis, la marche des économies était régulée principalement à l'intérieur des frontières par la concurrence entre les unités de production de dimension nationale. Aujourd'hui, la concurrence entre des unités transnationales ne peut plus être praticable sans régulation internationale. » Alors, c'est une très belle synthèse, mais vous pouvez peut-être développer le sens de ces affirmations.
Oui, en réalité, les entreprises se sont autant aujourd'hui se concentrer énormément. Ça a été vrai dans le domaine de la construction navale, puisque nous n'avons qu'un petit nombre de très grands chantiers encore. Les grandes entreprises sont aujourd'hui très largement en Asie. En Asie, alors, il se trouve qu'il y a des conglomérats, en particulier, curieusement, au Danemark. Puisque Maersk est devenu le plus grand transporteur maritime et constructeur maritime. Il ne faut pas oublier que ces entreprises sont des entreprises qui construisent les navires, qui exploitent le pétrole et qui...
Mais qui font toute la chaîne, quoi. C'est
toute la chaîne.
C'est les conglomérats.
Et après, le transport, n'est-ce pas ? Maersk constitue un énorme conglomérat dans un tout petit pays, mais c'est un conglomérat unique. Qu'il y ait une régulation internationale des conditions de transport, de construction et autres à ce niveau. Et il est extrêmement important de voir à ce plan ce qui vient se passer au niveau de la réglementation des personnels. Il se trouve qu'actuellement, le personnel de marin est probablement le premier personnel internationalisé par une réglementation internationale qui est celle de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le marin représente aujourd'hui, le progrès a été considérable dans les dernières années, le domaine dans lequel une main-d'œuvre est aujourd'hui internationalisée totalement au niveau de ses conditions de rémunération, d'emploi.
De protection, de sécurité, etc.
Non seulement de protection, mais de qualité de recrutement et de formation. J'ai moi-même été délégué par le gouvernement français pour participer, et je l'ai participé pendant 15 ans, à l'Université mondiale de la mer, qui est la seule unité d'enseignement mondial. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre, dans d'autres domaines. Nous avons là des conditions de formation unifiées pour l'ensemble du monde maritime. C'est-à-dire que le staff est composé de Norvégiens, d'un Chinois qui est un de mes amis, qui est un maritimiste, et qui assure une formation totalement unifiée et permet aussi une harmonisation en accord avec l'OIT notamment, de toutes les conditions d'emploi. Et tout ceci est un progrès considérable par rapport à des réglementations nationales dont la disparité était une cause de difficultés pour les salariés eux-mêmes et pour les gouvernements.
Oui, donc vous terminez sur une note optimiste en disant qu'après tout, on peut arriver à une régulation internationale et le transport maritime et la mer en est la première démonstration. Et alors, je voudrais vous lire pour terminer, parce que je crois que c'est une synthèse excellente et qui s'inscrit dans l'optimisme. Je crois que l'optimisme est quelque chose de nécessaire au moment où on appelle la croissance de nos voeux. Alors, je vous lis. Jadis, les conflits entre de grandes transnationales commerciales ou armatoriales, les grandes compagnies, provoquaient des guerres à la suite desquelles une ou plusieurs nations dominaient les activités économiques internationales d'autres nations. Au XXIe siècle, les structures des organismes internationaux de régulation doivent s'adapter aux changements de situation relative des différentes nations pour que la concurrence internationale puisse jouer le rôle régulateur et pacifique que l'on attendait jadis de la main invisible.
Tout à fait.
Voilà, donc prions pour que cette main invisible soit efficace. C'était les convictions de Pierre Bauchet qui veut rajouter un dernier mot.
Oui, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que nous ayons l'illusion que ceci diminue les réglementations. La réglementation en général, parce que la réglementation internationale se substitue en quelque sorte aux réglementations nationales. Autrement dit, la masse réglementaire indispensable restera importante. Le libéralisme ne peut pas conduire à des illusions. Il n'y a pas de libéralisme dans ce domaine. Un type de régulation remplace un autre.
Parfait. Alors, c'était, je vous le disais à l'instant, les convictions et la vision de Pierre Bauchet de l'Institut, qui vient de faire paraître son dernier ouvrage chez Economica, « Le transport international de marchandises, air, mer, terre, 103 pages pour 24 euros ». Merci à vous, Pierre Bauchet, et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne. Et encore
merci,
bravo
merci
pour ce remarquable ouvrage.